Question politique avec Ali Badou.
Bonjour, bonjour et merci d'écouter, de regarder Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Et si c'était la fin de l'exception française ? Fin de l'exception française ou une parenthèse rendue nécessaire par la troisième vague ? La fermeture des écoles était annoncée par le président de la République mercredi soir et en même temps un nouveau calendrier scolaire. Dès demain, une semaine de cours à la maison, à distance pour les écoliers, les collégiens, les lycéens. À partir du 12 avril, deux semaines de vacances simultanées pour les trois zones. Le 26, retour en classe pour les maternelles et les primaires. Cours à distance pour les collégiens et les lycéens, avant la dernière étape, le retour en classe au collège et au lycée. Et un casse-tête évidemment, d'abord pour retenir ces dates, ensuite pour les parents, les familles et bien sûr dans les établissements où les questions d'organisation sont d'une immense complexité et avec des protocoles qui ne cessent d'évoluer. Beaucoup de questions restent donc posées dans la communauté éducative et nous sommes en direct jusqu'à 13h avec le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, pour intervenir, réagir, commenter l'émission, l'application mobile France Inter ou les réseaux avec le hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Ali Badou.
Merci d'être au micro de questions politiques. Beaucoup de questions à vous poser. Votre parole est évidemment très attendue. L'équipe de questions politiques avec moi, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali. Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait. Elle a remis à jour votre portrait. Nous découvrirons ça ensemble tout à l'heure. Mais très sérieusement et pour commencer, Jean-Michel Blanquer, cette décision de fermer les écoles, c'était un crève-cœur pour vous ?
On peut dire ça comme ça, pour tout le monde, pas seulement pour moi, je pense pour les parents, les professeurs.
C'est à vous que je pose la question.
Oui, bien sûr, mais tout le monde ressent la même chose, parce que je pense qu'il y a le même attachement de tous les Français à l'école, et qu'il y avait, qu'on partage tous ce désir d'avoir une année scolaire 2020-21 la plus normale possible pour tous nos enfants. Donc je l'ai ressenti comme tout le monde de cette façon-là. En même temps, je considère qu'on est arrivé à une solution d'équilibre, c'est-à-dire une solution qui, en englobant les vacances de Pâques, fait que, par exemple, un enfant d'école primaire, en réalité, va perdre 3 jours de classe physiquement. Donc ça reste très, très raisonnable. Et donc on n'a pas perdu du tout le pari qui est d'avoir cette véritable année scolaire 2020-21 non perdue pour les enfants de France.
On va en parler évidemment. La date du retour en cours pour tous les écoliers, collégiens, lycéens, au 3 mai, elle est fixée, elle ne bougera pas.
Normalement non, bien sûr, sur tous les sujets.
Pourquoi normalement ?
Parce qu'on est toujours obligé d'avoir un adverbe de prudence depuis le début de cette crise. Donc, mais c'est une petite prudence, si je peux dire. Nous nous programmons vraiment pour rentrer le 26 pour les élèves des écoles primaires et le 3 pour ceux de l'enseignement secondaire physiquement, étant bien entendu que ceux de l'enseignement secondaire, dès le 26... auront de l'enseignement à distance aussi.
Mais 61% des Français n'y croient
Karine
pas. En fait, ils vous trouvent beaucoup trop optimiste. Ils disent que le retour en classe n'aura pas lieu dans 4 semaines.
Écoutez, nous le verrons bien. Simplement, nos protocoles sanitaires restent très stricts, hein, donc permettent d'envisager le retour à l'école primaire dans des conditions valables. Rappelons que dans une bonne partie de la France, il y avait encore possibilité d'organiser cela de manière normale au moment où on a arrêté. Donc on va y... j'espère bien qu'on va être en mesure d'y arriver le 26.
Nathalie,
j'avoue que j'ai pas très bien compris si vous aviez été convaincu de la contagiosité des enfants ou si on vous a obligé à être convaincu. En regardant les différentes études qu'il y a depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, il n'y a pas une évidence absolue que ce sont les enfants qui peuvent contaminer les autres. Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic dans le gouvernement et chez vous ?
Non. Ce que je dis de façon permanente et que je dis encore aujourd'hui, évidemment, c'est que le sujet dans ces questions d'épidémie, c'est l'interaction sociale. Donc plus vous multipliez les interactions sociales, plus évidemment le virus circule. L'école, comme d'autres activités de la société, mais certainement pas davantage, contribue aux interactions sociales. Pas seulement d'ailleurs au moment où l'enfant est à l'école, au moment où on l'accompagne et à d'autres moments. Donc ce qui était assez agaçant dans la semaine qui a précédé notre décision, c'était de voir à quel point les esprits se focalisaient sur l'école, alors que c'est un sujet parmi d'autres. Simplement, il est vrai que quand on prend la décision de fermer les écoles, même pour l'enseignement à distance, ce qu'on fait, c'est que non seulement on évite que les enfants circulent...
On oblige les parents à rester chez eux.
Les parents à rester
chez eux. Donc c'est notamment pour ça.
dans le monde entier, cette décision est prise aussi avec cette idée-là, bien entendu, pour limiter le fait de sortir. Mais c'est vraiment, comme je l'ai dit depuis des mois, ce que l'on doit faire en dernier ressort, et donc on l'a fait en dernier ressort. Mais je pense qu'il faut éviter de considérer l'école comme un lieu spécifique de contamination. Encore une fois, c'est un lieu où, évidemment, on peut se contaminer. J'ai jamais dit que ça qu'il ne se passait rien.
Mais il y a des données aujourd'hui, on arrive à avoir une vision objective, justement, sur...
Écoutez, alors, faut toujours être là aussi très prudent sur ces questions-là. Donc, je peux m'exprimer avec l'humilité qui sied à un non scientifique, mais je crois qu'il faut aussi de l'humilité aux scientifiques dans la crise que nous traversons. Ce que nous voyons, c'est d'abord que, à l'école primaire, et ça dans le monde entier, finalement, les enfants sont moins contaminants et évidemment avec très peu de symptômes. Et donc c'est des aspects un peu rassurants de tout cela. Et qu'après, lorsqu'ils deviennent adolescents, ils sont plus contaminants et éventuellement un tout petit peu
quand
plus
quand à la
de
crèche,
symptômes.
On comprend pas.
Donc la crèche, c'est parce qu'il y a...
C'est pas vous la crèche, mais...
Non, mais c'est vrai que pour les tout petits, ça vaut aussi pour la maternelle, le fait qu'il n'y ait pas de masque, le fait qu'il y ait... Parfois, on est amené quand même à toucher les enfants et à être très proche d'eux.
Oui, bien sûr.
A fortiori, la crèche, ceci contribue à...
Je vais donner la parole à Françoise Fressoz, mais d'un mot, pourquoi ne pas avoir été aussi loin qu'il l'aurait fallu dans la politique de tests systématiques à l'école? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait tester pour isoler et éviter d'en arriver à cette extrémité, à ce qui était non négociable pendant des mois pour le président de la République, pour le gouvernement, à savoir fermer les écoles?
Et notre politique de test a été très volontariste depuis la rentrée de septembre. Notamment, c'est monté en puissance au premier trimestre. Ça a concerné surtout l'enseignement secondaire parce que c'était des tests nasopharyngés.
Oui.
D'ailleurs, c'est cette politique de test, très articulée avec les autorités de santé, qui nous a permis de rompre les chaînes de contamination. C'est vrai que au premier trimestre, c'était une politique qui allait là où on voyait des symptômes et qui permettait de rompre les chaînes de contamination, de fermer des classes. C'était toujours autour de 0,2% des classes qui étaient fermées en même temps. Et si vous interrogez
avec le recul, il aurait fallu davantage tester et faire ça de manière
après,
systématique.
Il faut aussi avoir. Il y a des sujets techniques, hein, c'est-à-dire par exemple les tests salivaires n'ont pu être autorisés que relativement récemment. Dès que ça a été le cas, c'est-à-dire en gros au début de l'année 2021, on a commencé à programmer la montée en puissance qui nous a permis d'arriver ces derniers temps à 300 000 tests salivaires proposés chaque semaine et d'avoir non seulement une politique permettant de rompre les chaînes de contamination, y compris à l'école primaire, mais aussi une politique permettant parfois de tester aléatoirement des populations entières. À chaque fois, je tiens à le dire, ça nous amenait des taux de positivité en moyenne autour de 0,5%. Et là aussi, c'est quelque chose qui est quand même inférieur au taux de positivité dans le reste de la population.
Françoise Fressoz.
Avant la décision d'Emmanuel Macron, on avait entendu beaucoup de syndicats d'enseignants dire les enseignants ont peur, il faut les vacciner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la campagne de vaccination? Est-ce qu'ils vont devenir un public prioritaire? C'était un peu flou. Vous militez pour qu'ils soient vaccinés très vite. Comment ça va se passer?
Oui, Jean-Michel Blanquer. Le président a été très clair sur ce point lorsqu'il a commencé à parler de cette question. Je vous rappelle qu'il y a, comme chacun sait, une politique générale qui est d'aller des plus vulnérables aux moins vulnérables. Chacun comprend le sens d'une telle politique. C'est comme ça que depuis le début de la vaccination, c'est-à-dire depuis le début de l'année, ce sont les personnes les plus âgées, plus de 95% des personnes, par exemple, en EHPAD, etc. Et c'est cela qui a infléchi la courbe de mortalité en France. C'est une stratégie plutôt payante et on doit la saluer. Mais maintenant que cette stratégie a maintenant près de 3 mois, il est normal que vienne s'articuler à cela une politique permettant de cibler certains publics prioritaires. Il y a eu les soignants, bien entendu. Ça aussi, ça allait de soi. Maintenant, c'est les enseignants.
Stratégie spécifique pour les enseignants. Mais alors, la France tarde-t-elle à immuniser justement les enseignants? Une enquête de l'OCDE montre que la France est très en retard. Mais à partir de quand?
Oui, à partir de quand la
ça
vaccination
quand?
Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut que ce soit avant la rentrée des classes, c'est-à-dire dans les 3 semaines qui viennent.
Alors, je suis évidemment très attentif à ce que ce soit le plus rapide possible, tout en ayant à prendre en compte ce qui se passe pour le reste de la société, notamment pour les vaccins disponibles pour les plus vulnérables, que ce soit les plus âgés ou ceux atteints de comorbidité. Je rappelle que les professeurs...
Mais ça commence quand pour les profs, Jean-Michel Blanquer? Parlons très simplement.
Je viens. Je voulais dire que, évidemment, tous ceux qui ont une comorbidité sont déjà concernés, hein, comme tout citoyen. Actuellement, c'était particulièrement vrai des plus de 50 ans, mais certaines comorbidités, c'est même avant 50 ans. Et puis, s'agissant des professeurs, Notre objectif, c'est que ce soit dans le courant du mois d'avril, selon des règles de priorité que nous travaillons actuellement. Notamment, ça commencera par ceux qui s'occupent des enfants en situation de handicap, c'est-à-dire non seulement d'ailleurs les professeurs concernés, mais aussi vous avez des personnels qui ne sont pas des professeurs, mais qui travaillent en milieu éducatif et qui sont avec les enfants handicapés. On continuera normalement avec les enfants de avec ceux qui s'occupent des enfants de maternelle, pour les raisons d'ailleurs que Nathalie Saint-Cric disait tout à l'heure. Mmh. Et puis ensuite, ce sera un raisonnement par âge. Tout ce travail se fait actuellement avec les autorités de santé.
Pardonnez-moi, est-ce qu'on se fait pas quand même des nœuds au cerveau? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas juste une urgence de vacciner 1 million de profs et on a 3 semaines pour le faire? On a l'impression qu'en fait, il y a une gêne logistique.
Ce qui est urgent, c'est de. Non. Ce qui est urgent, c'est de faire le. C'est de faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire, si vous voulez, entre une personne de 70 ans et un professeur de 35 ans, on a probablement le choix à faire de la personne de 70 ans. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on réussisse le plus vite possible à faire tous les professeurs.
Ça vient s'intégrer
dans une vision d'ensemble. Alors, ça dépend des doses disponibles. Vous savez, c'est autour de 10 millions de Français vaccinés en ce mois d'avril et plus 10 millions chaque mois. Donc plus.
Non, mais vous savez que beaucoup d'enseignants, de beaucoup de professeurs nous écoutent et donc la campagne de vaccination, elle commence quand pour eux?
Ah ben, c'est probablement vers la mi-avril qu'on aura les premiers correspondant aux catégories que je disais. La question, c'est ensuite le nombre de vaccins. Et là, on est évidemment dépendant des facteurs généraux. C'est pourquoi.
Alors, disons les choses différemment. Quand est-ce qu'ils seront tous vaccinés?
Ah ben, non, je préfère ne pas vous donner une date, même si, évidemment, ce qui est souhaitable, c'est qu'on réussisse à faire cela au cours des
Et pour les personnels non enseignants?
En tout cas, pour cela que, pour les.
Personnels non enseignants?
Ah, de toute façon, c'est articulé. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui travaillent à l'école, au collège et au lycée. On ne fait pas une distinction en fonction de l'employeur, mais en fonction des caractéristiques, c'est-à-dire l'âge de la personne et aussi les situations professionnelles dans lesquelles
elle se trouve. Donc, dans les deux mois, pour le dire vite.
Ce qui est un peu rassurant dans tout cela, c'est que et qui évidemment guide aussi notre travail, c'est que, toutes les enquêtes que l'on fait montrent que les professeurs font partie des catégories qui sont moins contaminées que la moyenne. Donc c'est quand même le point rassurant, notamment parce que justement les protocoles sont respectés, que les professeurs sont des gens très responsables, quand même ils jouent un rôle pédagogique vis-à-vis des élèves sur les gestes barrières et sur tout ce qui s'ensuit. Et c'est heureusement la situation dans laquelle on est.
Que pouvez-vous dire aux jeunes qui s'apprêtent à passer le bac, qui ne savent pas forcément dans quelles conditions, et notamment ceux qui ont peur de ce fameux grand oral, qu'ils n'ont probablement pas très bien préparé, parce que le préparer avec un ordi, ce n'est pas forcément avoir les meilleurs éléments et les meilleurs avantages pour pouvoir s'y confronter. Il y a même une pétition qui demande à ce que ce soit supprimé.
Il y a beaucoup de pétitions. Oui, il y a toujours des pétitions, mais autant et les circonstances actuelles conduisent évidemment à toute une série de demandes que je suis capable d'entendre, mais c'est aussi mon rôle de pas dire oui à toutes les demandes.
Alors vous dites oui à quoi pour l'instant et ou non à quoi?
Je dis oui à l'intérêt de l'élève toujours. C'est mon mantra.
Bah alors les bacheliers.
Les bacheliers, ils ont intérêt à avoir un baccalauréat bien préparé. Oui. C'est la raison pour laquelle on a pris déjà des mesures d'adaptation, puisqu'il y avait des épreuves qui devaient avoir lieu au mois de mars, qu'on a transformées en contrôle continu, comme vous le savez.
Il y aura des épreuves écrites?
L'épreuve de philosophie du baccalauréat est prévue comme étant une épreuve écrite.
Elle aura donc lieu. Mais en tout cas, sur la table, est-ce qu'il y a le scénario, malgré tout, d'un baccalauréat en pur contrôle continu, Jean-Michel Blanquer?
Écoutez, c'est très difficile de vous répondre.
C'est toujours l'adverbe.
Parce qu'il faut que je fasse des phrases non sécables. C'est-à-dire.
Mais en l'occurrence, nous ne la couperons pas, nous vous écoutons et justement.
Parlez librement, monsieur Blanquer.
Si la question est complexe, prenez le temps de nous expliquer.
Non, alors c'est très clair. C'est l'épreuve de baccalauréat à l'écrit en philosophie à vocation à être passée, de même que celle du grand oral. Dans les deux cas, on peut l'organiser dans des conditions sanitaires respectant les protocoles. Et nous sommes d'ailleurs. Nous avons été, dans les semaines précédentes, capables d'organiser certains concours avec beaucoup de distance.
Mais il est possible, dans des conditions dures et compliquées de l'épidémie, que le bac soit un pur contrôle continu.
Mais c'est pas du tout la perspective que nous avons, c'est pas l'idée que nous nous faisons du mois de juin aujourd'hui.
Juste, je reviens à cette histoire d'oral. Il y a un certain nombre d'élèves qui considèrent qu'ils sont pas forcément ni l'assurance, ni la préparation, ni suffisamment de conditions pour bien articuler, et que le fait de ne pas le faire en présentiel les pénalise. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que la nature même de cette oral ne risque pas d'être compliqué pour des gens qui n'ont pas été en présentiel?
J'en dis que il y a la question de fond, puis il y a la question de la note. La question de fond, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un grand oral? faut jamais oublier le sens et pas oublier aussi le fait que nous continuons des réformes qui sont indépendantes de l'épidémie dans l'intérêt des élèves. Si on a créé ce grand oral, c'est parce qu'on a voulu envoyer un signal à tout le système scolaire français que c'est très important de savoir bien s'exprimer, argumenter, écouter,
bien sûr,
avoir de la confiance en soi, etc.
Et ça s'apprend.
Les professeurs de France, fort heureusement, apprennent à leurs élèves cela. Et le signal qu'on a envoyé maintenant depuis plus de 2 ans que cette réforme est amorcée, est un signal de préparation de cela, que ce soit par les pratiques théâtrales, le chant, les exposés oraux et toute une série de choses. Nous avons aussi mis à disposition de tous des ressources très importantes, hein, j'en profite pour le dire. On trouve sur notre site EduSchool, sur le site de l'éducation.gouv aussi, sur l'UMNI, sur l'ensemble des ressources numériques que nous mettons en ligne, de quoi préparer cet oral. Et donc, et par ailleurs, les élèves vont retrouver le chemin de l'école en mai-juin. Il y aura donc encore du temps de préparation de cet oral. Mais j'invite chacun au mois d'avril à s'entraîner. Hein. Il y a des mécanismes d'entraînement qui sont proposés dans les ressources que nous mettons.
Quand on peut, évidemment, et quand on a accès
aux ressources numériques,
bien sûr. Et quand on a une chambre pour s'isoler, enfin, c'est aussi une question sociale.
On peut le faire en plein air aussi.
Françoise Fressoz.
En fait, la question qu'on peut se poser, est-ce que 2 années de crise sanitaire n'ont pas fini par tuer le bac? Parce qu'au fond, même si les épreuves se déroulent, il va y avoir quand même des consignes d'indulgence des jurys. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, ou vous dites, après tout, c'est une étape et au fond, le bac n'aura plus la valeur qu'il a eue.
Non, c'est l'inverse.
Jean-Michel Blanquer.
Non, je sais que cette idée-là court parfois et qu'il y a une sorte de pente pessimiste régulière qui peut exister, je cherche à dire ça, mais je crois que c'est le contraire. D'abord, la réforme du baccalauréat, elle était faite pour revaloriser le baccalauréat. Je rappelle les grands principes. Le fait d'avoir du contrôle continu, par exemple, c'était une façon de dire que l'effort continu est récompensé et que, par ailleurs, le fait d'avoir les enseignements de spécialité était fait pour que les élèves approfondissent davantage. Et ça, on l'a pas perdu. Interroger les élèves qui ont choisi histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique, par exemple. Interroger ceux qui ont choisi littérature, humanité, philosophie. Interroger ceux qui ont choisi sciences numériques, informatique. Autant de choses qui n'existaient pas auparavant et qui désormais existent et qui correspondent à des choix, je dirais, de cœur des élèves qui l'ont fait par passion, si je puis dire. Et donc, ils ont eu des programmes assez exigeants qui leur ont permis d'approfondir. C'est ça la vraie valorisation du baccalauréat. On fait toujours du fétichisme de parchemin, si je puis dire. Mais ce qui compte, c'est comment est-ce qu'en préparant le baccalauréat, on prépare ce qui fait réussir après le baccalauréat.
Et la valeur du diplôme, évidemment.
Et donc, c'est ça qui donne la valeur au diplôme. Des éléments de dévalorisation, il y en a eu dans les décennies précédentes. Là, c'est l'inverse. Pour les raisons que je viens de dire, c'est
malgré une année qui peut être chaotique, Jean-Michel Blanquer, si on n'a pas le fétichisme,
elle a été moins chaotique que dans la plupart des autres pays.
Ça, c'est entendu.
C'est en cela que, au contraire, il y a une sorte de résilience de notre système et de tout le monde, de tous les acteurs, les professeurs, les élèves, qui font que on aura passé le chemin. Et puis, au passage, il y a aussi des pratiques nouvelles qui auront été bénéfiques. Les pratiques numériques, chacun l'a dit. Bien sûr qu'il y a des imperfections, mais les élèves et les professeurs ont progressé sur ce sujet. Deuxièmement, l'autonomie de l'élève. Vous avez des élèves qui sont devenus plus autonomes dans leur travail. Le contrôle continu. Moi, j'entends des personnes réclamer aujourd'hui.
Mais le contrôle continu, c'est l'opposé d'un baccalauréat. C'est l'opposé de passer en fait un examen.
Mais justement, c'est pour ça que je ne dis pas oui à ceux qui demandent 100% de contrôle continu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez certains acteurs qui, avant cette crise épidémique, protestaient quand je disais il faut une part de contrôle continu. Je rappelle que c'est 40% de contrôle continu dans la version normale du nouveau baccalauréat. Et donc ils protestaient contre ces 40%. Et puis maintenant, c'est parfois les mêmes qui me disent il faudrait 100% de contrôle continu. Moi, ce que je vous dis, c'est que traversée de la mer Rouge, si j'ose dire, de ce moment un peu compliqué dont on va sortir, on aura finalement une sorte de légitimation du contrôle continu. Mais évidemment, moi, je ne veux pas qu'on passe de l'autre côté du cheval.
Alors, pour poursuivre la métaphore, pour le coup, et pour ne pas avoir le fétichisme du baccalauréat, puisque vous ne savez pas encore aujourd'hui si l'hypothèse d'un pur contrôle continu sera finalement ce qui sera retenu. Mais est-ce que, de manière générale, vous constatez une baisse du niveau des élèves? On a entendu des témoignages d'enseignants dire qu'ils avaient vu des élèves décrocher. Est-ce que cette pandémie a entraîné et malgré vous, malgré les enseignants et malgré le travail dans les établissements, une baisse de niveau qu'il faudra compenser?
Alors c'est difficile de parler de manière aussi générale et la question mérite une réponse assez documentée. D'abord, il y a le sujet du décrochage en tant que tel, c'est-à-dire des élèves qui seraient partis à cause de la crise. Là, c'est un point positif pour la France, puisque c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut se comparer, puisque de manière très contre-intuitive, je dirais, en 2020, les élèves français ont moins décroché qu'en 2019. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un tel volontarisme de la part de tous pour les raccrocher. Par exemple, prenez le lycée professionnel, qui est souvent un lieu central de décrochage, si je puis dire. Bien, il y a eu un énorme effort des professeurs de lycée professionnel, de l'institution en général. Et puis, je dirais, un désir d'école qui s'est retrouvé à la faveur de cette crise. Parfois, d'un mal est né un bien. Tout le monde a compris que l'école, en réalité, c'était pas un gadget, que c'était pas quelque chose de négligeable. Et y compris les élèves. Et donc, en septembre, déjà en mai-juin, le choix de revenir à l'école a été le bon choix. On s'en rend compte a posteriori, parce que ça a réamorcé la pompe. Les pays qui n'ont pas fait ça en ont beaucoup pâti ensuite. Et ensuite, nous, on a eu le retour, je dirais, massif des élèves en septembre. Donc côté décrochage, la situation est vraiment la meilleure possible dans le contexte que nous avons eu.
Baisse de niveau.
Donc, s'agissant du niveau, là, il y a une différence école primaire, collège, lycée. Ceux qui sont susceptibles de pâtir le plus d'une crise comme celle-là, c'est évidemment les plus petits. Par exemple, l'enseignement à distance, évidemment quelque chose de très compliqué pour les plus jeunes. Dans la classe la plus, je dirais, la plus fatidique, c'est-à-dire, et aussi la plus technique d'ailleurs, celle du cours préparatoire.
Oui.
Les indications que nous avons eues sont très claires. Puisque vous savez, nous sommes un des très rares pays à faire une évaluation pour tous nos élèves à la fois, c'est-à-dire 800 000 enfants, un peu moins, pour un élève de CP, ça veut dire en septembre de son entrée en CP, puis en février en CP, puis de nouveau en septembre quand il rentre en CE1. Cet élève, on l'a donc, si je puis dire, photographié trois fois l'année dernière. Et donc, on a une vision pour chaque enfant et à l'échelle du pays qui nous dit la chose suivante, que oui, le confinement de mars, avril, mai 2020 a évidemment représenté une baisse de niveau pour ces enfants. On le constate en septembre, avec une baisse en septembre 2020 par rapport à septembre 2019. Mais par contre, la bonne nouvelle ensuite, c'est que notre évaluation de février 2021, et ça vraiment, j'invite chacun à regarder ça dans le détail, c'est extrêmement intéressant, c'est que, en français et en mathématiques, donc ce que nous évaluons de manière très précise, eh bien, ces enfants de CP entrés en 2020 sont meilleurs qu'auparavant,
mais c'est
février
vrai que c'est contre-intuitif et assez paradoxal.
Oui, tout à fait. Alors, c'est parce que tout simplement, il y a eu un travail de fait par les uns et les autres, et que, on le verra, la France a réussi à passer ce cap. J'étais l'autre jour dans une classe, dans une des villes les plus pauvres de France. Et j'étais sur les sujets sanitaires. Mais j'ai regardé les questions pédagogiques, évidemment. Les 12 enfants du CP que je visitais savaient lire au mois de mars. C'est des enfants très pauvres. Je pensais à leur équivalent aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe. Eh bien, le même enfant, malheureusement, dans d'autres pays, en ce moment, est en train de décrocher, au sens de décrocher cognitivement. C'est donc, et ce qui est la chose la plus grave qui soit, puisque quand on est plus âgé, on rattrape plus facilement. On ne doit pas perdre l'apprentissage, et c'est pour ça que je tiens tant à ce que les écoles soient ouvertes, notamment à l'école primaire dans ces moments-là. Et donc, la France, grâce à ses professeurs en particulier, mais aussi les familles et tout le monde, en fait, cette espèce de mobilisation générale pour l'école, la France a évité, je pense, une catastrophe éducative. Elle est en train de l'éviter. Il y a encore un effort à poursuivre, mais c'est sur cela que nous travaillons en permanence.
Karine Bécart, puis Françoise Fraisseuse.
Je voudrais vous poser une question sur vraiment la prise de décision, en fait, pendant cette crise sanitaire et de la désorganisation des couacs qui semblent apparaître. Vous avez parlé, par exemple, des centres aérés qui allaient rester ouverts. Finalement, on a appris qu'ils allaient fermer.
Non, ils sont ouverts dans les quartiers urbains prioritaires, au cas par cas.
On a parlé des assistantes maternelles qui allaient devoir arrêter, qui finalement vont pouvoir fonctionner. En fait, ma question, c'est de savoir pourquoi le gouvernement ne se donne pas un temps vraiment d'organisation. Pourquoi, dès la prise de décision d'Emmanuel Macron, qui arrive vraiment à la dernière minute, pourquoi tout de suite derrière, en fait, les choses s'en mêlent, parce qu'on ne se donne pas ce temps de latence pour organiser les choses au niveau du gouvernement.
Alors, Jean-Michel Blanquer.
Qu'il y ait parfois des imperfections, des choses qui sont trop imprécises pendant 24 heures, ça peut tout à fait
défaut d'anticipation, vous connaissez le reproche.
C'est-à-dire qu'il y a une telle multitude de sujets à traiter que, évidemment, on souligne ce qui ne va pas, mais regardez comment la France, ce pays auquel on fait toujours beaucoup de reproches, mais on ne voit pas toutes les qualités, et là, c'est indépendamment de ce qu'est le gouvernement, mais de notre système administratif, on le critique parfois, mais on a des préfets, des institutions qui font que, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays, vous décidez quelque chose, ça se passe réellement ensuite.
Mais pourquoi ne pas se donner 24 ou 48 heures pour organiser les annonces d'Emmanuel Macron, alors qu'on a le sentiment...
C'est exactement ce qui s'est passé pour régler des dizaines de sujets, et vous, journaliste, vous êtes dans votre rôle pour pointer les deux ou trois sur lesquels, mais par exemple sur celui que vous dites, hein, les centres aérés, en réalité, je parlerai pas de couac, hein, puisque en effet, certains pourront ouvrir au cas par cas, notamment dans les quartiers urbains défavorisés. Sur les assistantes maternelles, c'est un sujet qui relève pas de ma compétence, mais c'est un sujet qui s'est calé, si je puis dire, au bout de 24 heures. Vous savez, on a ce qu'on appelle le centre interministériel de crise, qui nous permet de travailler ensuite dans le détail sur vraiment des centaines de sujets, et à chaque fois qu'il y a une décision
donc tout est prêt pour demain, vous écoutez, monsieur le ministre.
Pour oui, tout pour est la prêt semaine pour prochaine, pour mardi en général, pour pas mal de choses, oui, les choses. Mais tout est prêt, mais vous pourrez toujours me pointer telle chose qui va pas dans tel endroit, et dans tous les pays vous trouverez cela.
Bien sûr.
Mais néanmoins, mais de manière générale, prenez l'accueil des enfants de personnel soignant, c'est quand même toute une logistique, tout un travail auquel nous sommes attelés en ce moment même.
Oui.
Il y aura sans doute des imperfections. N'empêche que en mars, avril, mai, on a très bien réussi à le faire. Là aussi, grâce, je remercie vraiment du fond du cœur ceux qui se sont engagés là-dedans l'année dernière. On va retrouver un peu les mêmes cette fois-ci. On accueillait 30 000 enfants par jour, sans tambour ni trompette, mais grâce à une forme de d'efficacité des Français.
Juste une question très courte. Est-ce que c'est totalement normal d'avoir Emmanuel Macron à 20h, un débat à l'Assemblée le lendemain, un vote qui sert à rien? Est-ce qu'on peut pas comprendre un peu la fureur de l'opposition qui pourrait de temps en temps être un petit peu associée et que ce soit pas simplement cette chaîne de décision qui a l'air un peu étrange? Et on peut comprendre donc la fureur de l'opposition.
Ça, alors, je ne fais pas mien les mots que vous avez utilisés, évidemment. Je pense que un vote démocratique,
oui, mais
ça ne
vote,
sert pas à rien.
Sans conséquence.
Demander dans certains pays que je ne citerai pas aux citoyens ou aux éventuels parlementaires si ça sert à rien d'avoir.
On peut toujours trouver pire que soi, Jean-Michel Blanquer.
Non, mais c'est pas pire que soi. C'est
la possibilité de s'exprimer,
d'échanger des arguments et à la fin. Vous savez, moi, j'étais surpris que beaucoup de groupes d'opposition appellent à s'abstenir. Je trouve que c'est pas démocratiquement très compréhensible. S'ils sont contre, qu'ils le disent. Vous voyez, on a très souvent certains qui sont dans des postures d'opposition. Moi, je trouve que c'est très sain d'avoir un débat et puis de nous dire, ça, il faudrait, à mon avis, moi opposant, je considère qu'il faudrait faire de cette façon. Nous, ça pourrait nous inspirer. C'est pas tellement ça que l'on voit.
Vous avez été inspiré? Quelle proposition vous avez repris de l'opposition, par exemple?
Oh, il y a plein de choses. Regardez, quand il y a eu le sujet sur les vacances, par exemple, j'ai répondu que les vacances, à mes yeux, c'était pas la solution magique puisque vous pouvez très bien se contaminer davantage pendant les vacances que pendant la période scolaire, et que ça dépend donc de la façon dont on l'organise. Mais néanmoins, on a réfléchi à partir de cette proposition. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait la solution d'équilibre qu'on vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire celle où on a d'abord l'enseignement à distance, et non pas les vacances, c'est pas pareil, loin s'en faut. Et puis ensuite, les vacances, en espérant qu'on aura aussi accoutumé à une forme de responsabilité dans les comportements du quotidien pendant les dites vacances. Puis un retour progressif avec l'enseignement à distance pour le second degré. Tout ça, c'est des choses qui se sont nourries de discussions.
Alors, laissons de côté le Parlement, monsieur le ministre. Parlons du lieu où ça se décide. Le Conseil de défense, en l'occurrence, vous vous êtes opposé jusqu'au bout à la fermeture des écoles. Vous aviez une relation de tension avec vos collègues. Vous avez perdu ce combat-là. Qui était votre allié? Et en l'occurrence, est-ce que Olivier Véran, le ministre de la Santé, a gagné?
Pas du tout dans cette... Non, ça voudrait dire qu'il aurait
un
perdu
petit peu quand même
pendant toutes les semaines d'avant. C'est pas comme ça que ça marche, mais pas du tout. D'abord, on a une excellente entente avec Olivier Véran et il est tout à fait capable.
Oui, mais vous aviez des idées différentes.
Ben heureusement, c'est pas sur les écoles. Écoutez ce qu'il a dit. Il était
non. Non, bien sûr, mais vous avez été mis en minorité au Conseil de défense.
Non, ça c'est pas une histoire de minorité. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça.
Comme on n'y a pas accès et que c'est pas public, on ne sait pas comment ça se passe en l'occurrence. Mais on sait que vous étiez contre la fermeture des écoles et qu'elle a été décidée. Donc vous avez perdu.
Non, c'est pas du tout dans ces termes que ça se pose. Encore une fois, si vous me laissez le temps de développer.
Décrivez-nous le saint des saints.
Oui, je veux non pas vous décrire le fond, mais la forme pour vous montrer que c'est possible. D'abord, excellente entente entre les uns et les autres. C'est important de le dire. N'imaginez pas ça comme un pugilat entre des intérêts contraires. Olivier Véran, par exemple, est tout à fait en mesure de
bon,
comprendre.
Okay, mais vous êtes une équipe, vous aimez ça, d'accord.
Le côté fondamental d'avoir les enfants à l'école, bien sûr. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Et c'est d'ailleurs des sujets sur lesquels, regardez, sa manière d'en parler a un peu évolué, précisément parce que l'on discute. Donc non. Ensuite, on regarde évidemment la situation sanitaire. Et donc moi-même, et dans un dialogue avec le président de la République et le Premier ministre, même préalable au Conseil de défense, nous avons évidemment regardé comment on pouvait faire pour aménager ce mois d'avril, pour en quelque sorte passer ce cap-là. Donc à la fin, la décision qui a été prise, c'est une décision qu'on peut qualifier de collégiale, parce qu'on était d'accord sur cette formule.
Vous ne vous êtes pas opposé jusqu'au bout?
Ah non, bien sûr, c'est moi-même qui ai proposé certains points que vous avez là, puisque, par exemple, ce que j'expliquais à l'instant à Mme Bécart, c'est le fait que vous avez seulement 3 jours et demi où il n'y a pas classe pour les enfants de l'école primaire. C'est, je trouve, un résultat très valable. On n'aura pas fait rater beaucoup l'école aux enfants. Et en plus, il y a l'enseignement à distance qui, lorsqu'il est sur des courtes durées, est assez efficace parce qu'il y a de la motivation, parce qu'on s'est vu il y a pas longtemps. Et donc, c'est pas la même chose que quand vous avez un long tunnel d'enseignement à distance. Donc, je trouve qu'on est arrivé à une solution d'équilibre qui, justement, est le fruit d'un travail d'écoute et pas seulement, contrairement à ce qu'on dit, d'un travail confiné entre 6 ou 7 personnes qui décideraient tout seul, mais parce que auparavant, il y a de l'écoute. Par rapport à ce que disait Nathalie Saint-Cricq tout à l'heure, il n'y a pas que, vis-à-vis des parlementaires, il n'y a pas que le jour où, en fonction de l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre vient devant les députés puis les sénateurs. Il y a aussi...
Il écoute
les groupes politiques, il y a toute une liaison qui se fait, puis on les écoute le mardi dans les questions au gouvernement.
On le voit, on voulait savoir, nous, comment se prenait la décision et le lieu où elle se prenait véritablement.
Mais ils peuvent, c'est des moments d'influence.
Alors maintenant que vous nous avez expliqué comment se prend la décision, quel est, vous, votre diagnostic sur l'état de la jeunesse au bout de 2 ans de crise sanitaire? Est-ce que vous dites qu'elle est résiliente ou est-ce que vous êtes très inquiet? Vous dites on a évité la catastrophe éducative, mais au niveau du mental, comment vous sentez les choses et est-ce qu'il faut, en sortie de crise, faire quelque chose de spécifique pour les jeunes?
Jean-Michel Blanquer. Alors, oui, 3 fois oui à la question que vous posez in fine. La situation, je l'ai qualifiée depuis assez longtemps maintenant, de catastrophe éducative mondiale. C'est une catastrophe éducative mondiale, c'est une catastrophe pour la jeunesse du monde. Donc, minimise absolument pas ce qu'il en est. Je regardais une étude japonaise hier qui parlait, par exemple, de l'augmentation du suicide adolescent mondialement.
En France, 300% d'augmentation des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans depuis septembre, et ça ne cesse d'augmenter. Il y a une détresse psychique, psychologique, qui est ravageuse. Et en l'occurrence, répondez à Françoise sur cette question-là.
C'est ce que j'étais en train de faire.
Mais vous étiez en train de passer par le Japon pour revenir en France.
Non, je parle du monde. Parce que le problème, il est lié à l'épidémie et que l'épidémie, elle touche tous les pays et que donc on doit discerner ce qui relève de ce qui en quelque sorte nous frappe et la manière dont nous réagissons à cela. Donc, tout ce que vous venez de dire est exact. Les pédopsychiatres du monde entier s'inquiètent. Et lorsque je me bats pour les écoles ouvertes, c'est pas parce que j'ai une sorte d'idée fixe, pas du tout, c'est parce que j'ai tout ça à l'esprit.
Et parce que les pédopsychiatres en France s'y opposent à la fermeture des écoles.
Oui, j'ai toujours été d'ailleurs en osmose totale avec ce que disait la Société française de pédiatrie. Pourquoi ? Parce que nous avons une vision globale, c'est-à-dire on ne concerne pas que on regarde pas que le coronavirus, on regarde tous les aspects de la santé physique et psychique des enfants.
Mais ça veut dire qu'en sortie de crise, il va falloir faire des efforts spécifiques.
Oui, bien sûr. C'est pourquoi je martèle aussi. Je suis ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et donc ministre de la jeunesse. Et donc je martèle, mais à la suite du président et du Premier ministre, que la jeunesse est et sera, mais c'est vrai au présent comme au futur, notre priorité absolue. Ça doit être vrai sur le plan budgétaire, ça doit être vrai sur le plan de notre créativité, ça doit être vrai aussi sur le plan de l'état d'esprit général avec lequel nous animons la société française. Par exemple, j'attire l'attention sur la démographie aussi. Le fait que la démographie baisse, comme on pouvait le craindre dans une crise comme celle-là, c'est évidemment très grave pour l'avenir du pays.
Ça veut dire qu'il faut des aides ? Vous pensez qu'il faut remettre des aides à la natalité ?
Je pense que... Vous savez, on a beaucoup parlé du monde d'après lors du premier confinement, et je trouve qu'on en parle moins maintenant, et c'est donc maintenant qu'il faut en parler.
Oui, parce que maintenant, les gens veulent retrouver le monde d'avant.
C'est parce qu'on doit avoir un monde d'avant en mieux. Et donc, le monde d'avant en mieux, c'est des choses qu'on aimait bien avant, plus une vision renouvelée pour la jeunesse. Moi, je pense que dans ce monde que nous avons à préparer, dès maintenant, avec la jeunesse, il y a trois piliers qui sont fondamentaux pour le construire, et qui construiront c'est la santé, évidemment, tout le monde l'a compris, l'éducation et l'environnement. Et c'est évidemment ce qui doit guider nos choix budgétaires, à l'échelle française comme à l'échelle européenne. Je vous rappelle que nous avons pris des initiatives pour que, à l'échelle de l'Europe, il y ait une vision partagée sur un investissement supplémentaire en éducation. C'est d'ailleurs en partie ce que le plan de relance commence à indiquer. Mmh. Et cette société où environnement, santé et éducation sont clés, c'est évidemment... une société pour la jeunesse.
Pour les enfants, d'un mot justement, puisqu'il est question d'environnement, et avant votre portrait, Jean-Michel Blanquer, une question à propos des rêves d'enfants, Nathalie Saint-Cricq.
Alors on a eu manifestement une décision de la maire de Poitiers, qui a considéré qu'il fallait supprimer les subventions aux aéroclubs de la ville en disant que l'aérien, je cite, ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Comment est-ce que vous réagissez à cette prise de position? Est-ce que vous considérez que les Verts, les écologistes, entre les sapins de Noël et diverses décisions, sont en train de sombrer dans une idéologie un peu étrange? C'est du tout moi ce qu'a dit Marlène Schiappa tout à l'heure.
Oui, c'est évidemment très inquiétant. C'est-à-dire, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté ELV aux précédentes municipales qui s'en mordent les doigts aujourd'hui, puisque c'est absolument catastrophique ce que nous montrent les maires écologistes aujourd'hui comme vision du monde. C'est une vision triste, austère, complice en plus avec les islamistes radicaux s'agissant de Strasbourg, donc c'est vraiment terrible.
Et ça, enfin, c'est parlons des rêves d'enfants pour le moment, puisque la question portait spécifiquement sur les rêves d'enfants, en l'occurrence,
mais
c'est oui, la question écologique, même, Jean-Michel Blanquer.
Mais ça en dit tellement long sur le plan presque psychologique, sur cette espèce de néo-jansénisme. C'est la mauvaise écologie, je vous parlais d'environnement à l'instant, il y a clairement la bonne écologie.
Néo-jansénisme
écologique, oui. Il y a la bonne et la mauvaise écologie, c'est très clair. Vous avez une écologie universaliste qui cultive l'optimisme pour la jeunesse, et puis vous avez une écologie nihiliste qui a peur, crée une peur du futur, qui est un cercle vicieux, parce que si on tient que des discours comme ça dans le futur, eh bien, on aura un cercle vicieux du pessimisme et de la neurasthénie, etc.
Et vous trouvez qu'ils sont dangereux, que c'est idéologiquement dangereux d'avoir des gens qui prennent des décisions
bien
comme
sûr.
Ça.
Alors, dans l'exemple que vous donnez, il y a plus grave, évidemment. C'est pas la chose. S'il n'y avait que ça, ce serait anecdotique. Mais ça vient à la suite de plusieurs choses, dont certaines sont symboliques, significatives, comme pour les arbres de Noël, et d'autres, au contraire, très substantiel et très grave, comme à Strasbourg sur le fait de subventionner une mosquée liée
à une mosquée
au régime Blanquer, d'Erdogan. Je ne comprends pas le raisonnement, et vous aviez un discours plutôt rationnel, mais je ne comprends pas le discours entre le pré-jansénisme et quelque chose qui relèverait donc de la prédestination des enfants, la question de l'aérien, et maintenant la question du financement d'une mosquée.
Oubliez le jansénisme, parce que ça risque de nous amener trop loin, mais ce n'était pas tellement la vision de la prédestination que je voyais, quoique c'était plutôt la dimension d'austérité.
L'austérité, la rigueur.
Mais s'agissant de ce que je pointe, c'est que je vais le redire autrement, pour être clair. Je pense qu'il y a des thèmes qui sont justement des thèmes mobilisateurs pour la jeunesse, et à juste titre, qui sont, par exemple, l'environnement. C'en est un très important. Mais c'est vrai aussi du féminisme, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre l'homophobie, etc. Mm-hmm. Et ce sont des thèmes extrêmement importants, parce qu'ils correspondent en effet à des sujets qui doivent nous mobiliser. Mais sur chacun de ces thèmes, vous avez la bonne et la mauvaise approche. Vous avez l'approche qui unit, l'approche qui investit dans le futur, l'approche qui aussi sait créer de l'optimisme sur ces sujets par l'action. Et puis vous avez l'action, il y a celle qui fragmente, qui oppose les gens, qui donne une grille de lecture victimaire des choses, etc. Donc moi j'ai une grille de lecture assez claire sur ces sujets. Et pour moi les maires écologiques représentent exactement ce risque-là, c'est-à-dire un cercle vicieux du pessimisme, d'une forme d'austérité aussi, d'une vision du monde, et puis aussi cette espèce de laisser-aller vis-à-vis de périls qui sont bien réels, c'est-à-dire être complice du régime d'Erdogan, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez grave. Donc oui, je suis inquiet de ce EELV municipal, et on a aujourd'hui, on doit montrer autre chose. Cette autre chose, c'est pas parce qu'on
puisque
serait
vous
contre
êtes passé
l'écologie,
au combat politique, et en l'occurrence, pour taper sur Europe Écologie Les Verts, on va en parler justement de politique. Le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, est notre invité ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Votre portrait, Jean-Michel Blanquer, signé Karine Bécard.
Vous allez bientôt décrocher, Jean-Michel Blanquer, le record de longévité au ministère de l'Éducation nationale. Certes, François Bayrou, qui y a passé un peu plus de 4 années, tient encore la corde, mais dans un peu moins de 4 mois désormais, vous l'aurez dépassé. S'installer, durer, c'est suffisamment rare pour être souligné. En fait, ce qui est suffisamment rare, Jean-Michel Blanquer, c'est de ne jamais être tombé malgré toutes les secousses que vous avez traversées. Comme si rien ne pouvait vous ébranler. Votre réforme du lycée, par exemple, qui est plutôt loin d'avoir fait l'unanimité, vous l'avez imposée. La grève des correcteurs du bac, vous l'avez quasiment ignorée. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Même les accusations d'avoir directement participé à la création d'un syndicat, Avenir Lycée, ça ne vous a pas fait trébucher. On parle pourtant de 65 000 euros de subventions. L'opposition à l'Assemblée vous a interrogé, vous vous êtes montré un peu fâché, mais comme toujours, tout a fini par glisser.
L'UNL, où M. Mélenchon va se faire acclamer, a reçu 220 000 euros, Avenir Lycéen, 65 000. Donc, et je peux vous dire que les liens entre M. Mélenchon et l'UNL sont beaucoup plus forts que ce que je peux avoir avec Avenir Lycéen.
La France Insoumise, qui est souvent votre cible privilégiée à l'Assemblée. Non, ce qui est intéressant, Jean-Michel Blanquer, à bien vous observer, c'est qu'il vous faut presque toujours avoir raison. Vous avez, c'est vrai, depuis longtemps de grands projets pour l'éducation. Vous réfléchissez, vous modelez, vous expérimentez. Mais vous semblez avoir du mal à supporter la contradiction, un peu peut-être comme Emmanuel Macron. Le président Macron qui a hésité en juillet dernier à vous faire politiquement avancer, remaniement ministériel, vous avez failli quitter la rue de Grenelle pour devenir ministre de l'Intérieur, voire Premier ministre. Vous avez probablement cru votre fiabilité, votre honnêteté être enfin récompensée. Et puis, non, l'ancien recteur que vous avez été, Jean-Michel Blanquer, l'ancien professeur agrégé, a été prié de préparer pour septembre une quatrième rentrée.
Ce que je vois dans une école comme celle-ci, c'est que ce que nous avons fait en mai et juin pour le déconfinement est utile aussi pour la préparation de la rentrée. Parce que maintenant, les habitudes sont prises.
Cette crise sanitaire qui aurait donc empêché le ministre de l'Éducation nationale d'être à 56 ans candidat aux élections régionales. Est-ce là vraiment votre seule raison ou avez-vous voulu protéger vos solides convictions du jugement électoral ?
Réponse Jean-Michel Blanquer.
Alors, il y a beaucoup à dire de votre entrée qui n'est pas que flatteur. Sur des points factuels, vous dites la réforme du lycée, je l'ai imposée. Il y a eu une très grande consultation pour la réforme du lycée. Les idées de la réforme du lycée, je les ai pas inventées un matin. Ça fait des années et des années que beaucoup de gens parlaient de la nécessité de débloquer cela. Quand on fait des enquêtes vers les lycéens. La dernière que j'ai vue, c'est 58% d'approbation de la réforme du lycée. Et ce, malgré le monceau de critiques, d'adversités qui ont pu exister, dont vous êtes fait l'écho. Mais les lycéens comprennent que c'est beaucoup mieux aujourd'hui de pouvoir choisir des enseignements de spécialité que d'avoir les anciennes séries. Pourquoi est-ce que tant de pouvoirs précédents y avaient renoncé ? Ben précisément parce qu'ils n'avaient pas envie d'affronter les contradictions que, soi-disant, je n'aimerais pas affronter. Vous savez, si je n'acceptais pas la contradiction, ça se verrait, et probablement je n'aurais pas la durée que vous avez bien voulu souligner, précisément parce que oui, j'aime bien la contradiction, je pense que c'est important. Après, on pouvait pas me faire le reproche de répondre à la contradiction, puisque je pense qu'il y a des arguments, mais il y a des sujets sur lesquels...
On le voit chaque semaine à l'Assemblée nationale.
Ben, il faut bien, si vous voulez, on peut pas non plus laisser faire. Regardez ce qui se passe, par exemple, toujours sur la réforme du lycée. On a un comité de suivi du baccalauréat. Il se réunit très régulièrement avec toutes les organisations syndicales. Nous prenons sans arrêt des mesures pour aller de l'avant et donc changer des choses en tenant compte des échos du terrain. Donc je sais bien qu'il y a cette petite musique à mon égard pour dire voilà, il n'aime pas la contradiction comme vous l'avez dit. Je crois que je l'aime exactement au même titre que chacun d'entre vous.
Vous manifestez même une forme de bonheur quand on regarde les questions au gouvernement lorsque vous levez pour prendre la parole.
Ça s'appelle la démocratie et c'est intéressant. Et puis moi, je respecte.
Et affronter le débat.
Je respecte les adversaires, surtout quand on se met pas sur les terrains qui sont autres que les terrains de la réalité des gens. Vous avez évoqué, je ne vais pas évoquer tout ce que vous avez dit, mais sur chacun de ces sujets, le but visé, c'est quoi ? C'est l'intérêt de l'élève. Et le but visé aussi, c'est vrai, c'est de creuser un sillon à l'éducation nationale. Je souhaite que, au travers de ce qu'on aura fait, il y ait des choses qui soient durablement inscrites. Je pense à ce qu'on a fait pour l'école primaire en particulier, les moyens qu'on y a mis, pas seulement le dédoublement des classes qui touche chaque année plus de 300 000 enfants, mais aussi tout ce qu'on fait, par exemple, pour les évaluations que je citais, pour le travail pédagogique sur le français et les mathématiques. Tout ça, c'est fait pour rehausser le niveau. Et même s'il y a eu cette crise sanitaire, le but est de continuer à creuser le sillon. Et je crois que les professeurs sur le terrain...
Le temps du bilan viendra, Jean-Michel Blanquer. Bien sûr, c'est bien de pouvoir y répondre.
Si vous permettez, Ali Badou, juste un point, c'est que le message que je veux passer au travers de ça, c'est que la crise sanitaire n'empêche pas certains sillons de continuer. Bien sûr qu'elle gêne et qu'elle pose mille problèmes et qu'à cause de ça, des choses sont ralenties, c'est vrai. Mais ne croyons pas qu'on est stoppé dans une évolution positive pour le progrès des élèves.
Temps politique, Françoise Fressoz.
Vous êtes très identifié au combat pour la laïcité, contre les séparatismes, et un récent sondage de l'IFOP montrait qu'au fond, une courte majorité de lycéens se déclarait favorable à l'autorisation des signes religieux à l'école. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de changer le monde, ou est-ce que vous pensez que le combat laïque, au fond, est un combat ringard aujourd'hui ?
Non, alors, comme vous dites, une courte majorité, ça veut dire quand même qu'il faut, on est un peu dans le 50-50. Ce qui est, et donc, il y a matière à ne pas se sentir si faible que ça quand on porte le combat laïque. Je pense que l'immense majorité de la population est tout à fait d'accord avec les valeurs de la laïcité, qui sont aussi des valeurs d'humanisme. On utilise trop peu ce mot désormais, mais voilà, derrière la laïcité, derrière les mots de république qui parfois peuvent apparaître abstraits aux jeunes, et j'entends ça, il faut dire tout simplement l'humanisme. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est une humanité qui vive bien, et où chacun soit respecté en tant qu'être
mais
humain.
Mais répondez à François sur la rupture des générations, parce qu'on constate une rupture,
oui,
une fracture entre générations.
Sûr. Et ça veut dire, cette rupture entre générations, je considère que quand elle existe, c'est parce que on n'a pas fait assez attention depuis 20 ou 30 ans à la formation, justement, et à mieux expliciter des choses qui nous paraissaient.
Est-ce que c'est pas aujourd'hui un combat perdu d'avance?
Non.
Notamment parce qu'on a pris du retard.
Non. Je considère que, si vous voulez, bien sûr, il n'est pas gagné d'avance non plus, mais il n'est pas perdu d'avance. Comment est-ce qu'il pourrait être gagné? D'abord, sur le terrain des idées, sur le terrain de la formation. Sur le terrain des idées, parce que les anti-républicains, les anti-laïcs ont gagné beaucoup de terrain depuis 30 ans, et notamment par la bataille des idées. Et c'est venu des États-Unis, c'est venu aussi de certains secteurs en France, c'est venu de la convergence d'intérêts entre l'islamisme radical, qui a poussé ses pions d'un point de vue idéologique. Regardez ce que, par exemple, un Tariq Ramadan a fait. Et puis, les universités américaines qui sont rentrées dans un certain nombre de délires intellectuels qui ont pu nous contaminer. J'ai vu ça de très près. J'ai moi-même vécu, vous le savez, en partie là-bas. Et c'est des choses que j'ai analysées. Donc, ça se situe sur le terrain des idées, d'une part. Ça se situe aussi sur le terrain de la formation. Je mentionnais tout à l'heure les sujets d'environnement, par exemple. La meilleure manière de prendre la bonne part de ces questions, c'est de les approfondir. Là, on vient de voter à l'Assemblée nationale la loi présentée par Barbara Pompili, un excellent projet de loi où il y a une part éducation pour mettre encore plus de développement durable, mais pas sous le mode du slogan ou des choses faciles, mais sur le mode de l'approfondissement scientifique de la part des élèves, des enjeux environnementaux. Donc moi, je crois à la raison. C'est pour ça que je crois à l'école, je crois au progrès, je crois à l'universalisme, je crois en l'être humain et je crois en l'éducation. Et je pense que tous ces éléments-là, les jeunes, les enfants, les adolescents, ils y croient, ils ont besoin de ça. Et donc c'est notre manière de présenter les choses, de faire vivre cela, d'être fier de notre modèle français, parce que derrière ça, il y a aussi des puissances internationales, des courants internationaux qui n'aiment pas le modèle à la française. Et ça fait même peut-être deux siècles et demi que ça dure, qu'on n'aime pas le républicanisme à la française, qu'on n'aime pas ces idées portées, les droits de l'homme par exemple, eh bien il faut les porter haut et fier et mieux partager ces valeurs avec nos enfants. Parce que c'est vrai, il y a un risque, je serais d'accord avec vous, il y a un risque de différentes générations intergénérationnelles.
Nathalie Sacri, qui reste quelques minutes.
Comment pouvez-vous peser sur l'UNEF, par exemple, quand on a vu les prises de position récentes, également que le numéro 2 de l'UNEF était voilé et qu'au jour dans le temps, elle s'occupait ou il s'intéressait aux catégories les plus défavorisées et que maintenant, ils cessaient de faire levier sur... Est-ce qu'il faut baisser les subventions? C'est un truc très simple.
Oui, bon, d'abord, je pense que alors, tout ce qui a trait aux subventions, justement, doit baisser pour à partir du moment où on est devant des mouvements qui sont... qui ont clairement pris des options anti-républicaines. Deuxièmement,
parce que l'opposition demande carrément la dissolution.
Je pense pas. Faut quand même être. Faut pas contredire la démocratie en voulant défendre la démocratie. Autrement dit, justement, j'aime bien la contradiction. Je pense qu'ils ont évidemment le droit d'exister et qu'en plus c'est un.
Est-ce qu'il faut
J'ai jamais réclamé pour ma part la dissolution. Par contre, sauf si ça devait aller vers des extrémités auxquelles ils ne sont pas encore arrivés. Mais simplement, j'ai vu, y compris à ce micro, des gens minimiser ce qui s'est passé avec l'UNEF en disant « mais c'est que des groupes de parole, tout ça, c'est, on prend pas de décision, enfin on s'est mis à rentrer dans une casuistique qui n'a aucun sens ». On voit bien comment Madame Pulvar trébuche, précisément parce qu'elle, non pas parce qu'elle elle pratiquerait une sorte de discrimination vis-à-vis des personnes non racisées, comme on dit maintenant, mais c'est parce qu'à partir du moment où vous commencez à être d'accord, un peu d'accord avec ce genre de choses, en fait, vous savez plus où ça s'arrête.
Non, mais ma question, c'était qu'est-ce que vous faites
Nathalie
qu'est-ce qu'on baisse les subventions? En clair,
oui,
qu'est-ce que vous faites
je pense
que vous regardez
clairement,
réponse rapide.
Quand des groupes se mettent dans ce type de situation, ils ne doivent pas avoir d'argent public. Deuxièmement, je pense que ils sont en plein déclin, précisément parce qu'ils prennent ce genre d'options. Pourquoi est-ce que l'UNEF a pris ce genre d'options depuis plusieurs années? C'est parce qu'ils étaient déjà en déclin électoral et qu'ils ont fait du clientélisme dans les facultés. Eh bien, il faut que ce déclin se continue. Et puis que d'autres groupes, c'est déjà le cas, ils ne sont plus la première organisation étudiante de France.
Non.
Ils déclineront d'eux-mêmes d'options extrémistes qu'ils auront prises de manière tout à fait inadaptée.
Karine Bécart, puis Françoise Fressoz.
Alors, on pointe beaucoup les décisions très personnelles du président Macron et encore plus pendant cette crise sanitaire. C'est intéressant parce que cette semaine, il y avait donc cette longue interview d'Edouard Philippe dans le magazine Le Point, qui nous expliquait tel qu'il voyait, lui, la Ve République. Et notamment, il considère que c'est une diarchie, que l'exécutif a deux têtes. Vous êtes, comme je le rappelais, professeur agrégé de droit public. Quelle est votre lecture à vous de la Ve République? Est-ce qu'effectivement c'est une diarchie? Est-ce que les décisions devraient être prises avec les deux têtes de l'exécutif?
Jean-Michel Blanquer.
Oui, bien sûr, les institutions sont très claires. Vous savez, vous avez parlé de durée tout à l'heure. La constitution de la Ve République, elle est sur le point de battre un record, celui de la Troisième République, en termes de durée. C'est une excellente chose pour la France. C'est vraiment, on ne se rend pas compte là aussi, si on fait une comparaison dans le temps, du bénéfice que nous avons d'avoir des institutions solides.
Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce qu'Edouard Philippe a raison de pointer le fait qu'Emmanuel Macron
de vous répondre en mettant en perspective. C'est important, d'accord. Mais une des raisons de la durée et de la solidité des institutions, c'est leur souplesse en réalité. Et cette souplesse, elle vient du fait que c'est une bonne synthèse de notre histoire constitutionnelle, qui avait été chaotique auparavant. Mmh. Deux, qu'il y a effectivement avec ce duo au sommet quelque chose qui permet parfois de partager les rôles, ce qui peut être très très bien, y compris parfois en termes d'emploi.
Ou de les confondre, on va aller vite. En l'occurrence, Edouard Philippe pointe du doigt une confusion, et c'est une critique de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron. Présider, ça n'est pas gouverner. Et en l'occurrence, quand on lit l'interview du Point, on s'aperçoit
que... C'est pas comme ça que je l'ai lu.
Bon, c'est vraiment aussi une manière de le comprendre.
Mais je pense qu'ils ont fait un duo qui s'entendait bien. Je l'ai vu en permanence.
Il vous manque, Edouard Philippe ?
Mais non, parce que je suis en lien, je suis parfois en relation avec lui.
Vous souhaitez son retour en politique,
le plan national. C'est difficile de... Comment ?
Il vous manque ?
Non, parce que je le vois, parce qu'encore une fois, je suis en relation
politiquement.
Avec lui. Il nous manque. Moi, je pense que ça fait du bien à chacun d'avoir des temps de respiration. On voit bien qu'il est en forme.
Françoise Fressoz.
Alors, la grande question pour 2022, c'est est-ce que Marine Le Pen peut remporter le deuxième tour ? Quelle est votre opinion ?
Ah bah, en démocratie, Tout est possible, et donc je veux être ni dans le jeu de ceux qui cherchent un peu à exciter les peurs à partir de ça, ni dans le jeu de la désinvolture. Il faut évidemment prendre tous les scénarios possibles et donc mesurer le sujet. En même temps, on ne doit pas être omnubilé par cet enjeu. C'est l'ensemble des perspectives démocratiques.
Et au fond, la question sous-jacente, c'est est-ce que Emmanuel Macron est pas devenu un peu trop seul pour pouvoir rassembler un camp face à Marine Le Pen en 2022. Et là, on rejoint la solitude du pouvoir, la critique implicite d'Edouard Philippe qui dit la Ve République, c'est une diarchie. Est-ce que là, il n'y a pas une solitude d'Emmanuel Macron qui fait que peu vont se mettre derrière lui en 2022?
Non, je ne pense pas. Je pense que d'abord, les Français voient bien toute une partie des bonnes choses qui résultent de l'équation que représente Emmanuel Macron, et notamment le « en même temps » à mes yeux a encore une certaine vigueur. Hein, c'est-à-dire, on a besoin d'avoir une force économique de la France. On le voit bien, par exemple, sur le sujet de la souveraineté économique, des sujets dont je parle, par exemple, avec Jean-Pierre Chevènement. Le président parle aussi de cela, sur la question de réindustrialisation de la France, mais en même temps, une jambe sociale, mais une jambe sociale modernisée. C'est ce que nous faisons depuis le début du quinquennat.
Moi, vous entendre, la campagne a commencé. Il est acquis qu'Emmanuel Macron sera candidat à l'élection présidentielle ?
Non, je ne sais
non,
pas.
Non, parce que vous acceptez d'y aller à fond et de voir sa candidature comme une évidence ?
Il est évident que quand il y a un président de la République qui fait son premier mandat, on pense à la possibilité du second. Et moi, pour moi, il est souhaitable, mais ça
à la probabilité.
Puis vous savez, c'est vrai qu'en ce moment, on est sur le sujet de la pandémie,
ouais, bien sûr.
Et que franchement, on n'est pas très concentré sur.
Oui,
sur
sauf qu'à plusieurs reprises, vous avez dit qu'il faut quand
minutes.
Même penser au monde d'après. Vous, c'est quoi sur quoi va se jouer 2022 à votre avis ?
Moi, je vous parle pas que de 2022. En vous parlant de ça, je vous parle vraiment des décennies qui viennent, du 21e siècle, c'est-à-dire comment. Nous réussissons à une échelle nationale, européenne et internationale à créer des sociétés démocratiques, durables, où il fait bon vivre, parce qu'on aura investi dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement. Voilà. Et ça, effectivement, ça peut inspirer
question.
Un programme, mais c'est pas que le sujet de 2022.
Quand vous voyez que le Front républicain s'effondre partout, c'est-à-dire qu'en gros, les gens disent Macron, Le Pen, moi, je ne me déplacerai pas, vous réagissez comment ? Vous considérez que c'est une évolution normale des choses ? Ou vous êtes effondré ?
Je pense qu'on a besoin d'une gauche de gouvernement et d'une droite de gouvernement plus crédible, c'est ça, ce qui évitera ce genre de phénomène. J'invite vraiment à ce que ce soit le cas au maximum, dans la manière d'avoir de la cohérence, notamment. Par exemple, vous voyez, quand on s'oppose à nous sur la gestion de l'épidémie ou sur d'autres sujets, qui est quand même une cohérence que les Français verront et qui feront qu'il y aura une plus grande popularité de ces deux parties du champ politique qui ont évidemment qui sont décisives pour qu'il y ait une vie démocratique saine. Moi, je me refuse à avoir juste nous et en face Madame Le Pen ou juste Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus équilibré. Et on voit bien localement, ça permet aussi des alliances. Ça permet tout simplement au pouvoir qui est le nôtre, qui est plutôt au centre, enfin, de réussir à avoir des majorités d'idées avec d'autres. Il arrive que des propositions venues de la gauche ou de la droite nous intéressent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on ne doit pas s'obnubiler avec une seule opposition, a fortiori extrémiste. Et je pense que dans l'esprit de beaucoup de Français, il y a évidemment encore la valeur des forces qui sont républicaines et de celles qui ne le sont pas.
D'un mot d'ailleurs à propos de la République, il faut commémorer Napoléon Bonaparte. C'est une question que je pose traditionnellement, mais comme vous êtes le ministre de l'Éducation, faudra-t-il le faire dans les écoles, les collèges, les lycées ?
Napoléon fait partie intégrante de notre histoire. J'ai donné un entretien récemment sur...
Mais dans les établissements scolaires
Bien sûr, il fait partie de notre enseignement. Vraiment, comment peut-on imaginer d'effacer Napoléon de notre histoire ? Il a de bons, de mauvais aspects, mais il faut en parler, il faut commémorer, regarder.
Et le célébrer avec... D'abord, parce que l'émission termine.
Mais avec... vous savez, il ne faut pas faire d'anachronisme, il faut faire de l'histoire. C'est vraiment... plutôt que d'être sans arrêt à faire du jugement moral sur... savoir si les hommes préhistoriques étaient féministes. Non, il faut savoir... il faut simplement être sain sur ces questions. Et évidemment, Napoléon n'était pas un saint avec un T.
Non.
Et ça n'empêche qu'il faut quand même le commémorer parce qu'il est essentiel dans notre histoire, tout simplement.
C'est très clair. Merci en tout cas, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à toutes. Et d'ailleurs, on va vous remercier toute l'équipe de Questions Politiques et vous donner rendez-vous donc dimanche prochain.